Ce fut dans les derniers jours d'octobre que le sérum de Castel fut essayé. Pratiquement, il était le dernier espoir de Rieux. Dans le cas d'un nouvel échec, le docteur était persuadé que la ville serait livrée aux caprices de la maladie. Soit que l'épidémie prolongeât ses effets pendant de longs mois encore, soit qu'elle décidât de s'arrêter sans raison. La veille même du jour où Castel vint visiter Rieux, le fils de M. Othon était tombé malade, et toute la famille avait dû gagner la quarantaine. La mère, qui en était sortie peu auparavant, se vit donc isolée pour la seconde fois. Respectueux des consignes données, le juge avait fait appeler le docteur Rieux dès qu'il reconnut sur le corps de l'enfant les signes de la maladie. Quand Rieux arriva, le père et la mère étaient debout au pied du lit. La petite fille avait été éloignée. L'enfant était dans la période d'abattement et se laissa examiner sans se plaindre. Quand le docteur releva la tête, il rencontra le regard du juge, et derrière lui, le visage pâle de la mère, qui avait mis un mouchoir sur sa bouche et suivait les gestes du docteur avec des yeux élargis.
« C'est cela, n'est-ce pas ?»
dit le juge d'une voix froide.
« Oui, »
répondit Rieux en regardant de nouveau l'enfant. Les yeux de la mère s'agrandirent, mais elle ne parlait toujours pas. Le juge se taisait aussi, puis il dit sur un ton plus bas,
« Eh bien, docteur, nous devons faire ce qui prescrit. »
Rieux évitait de regarder la mère qui tenait toujours son mouchoir sur la bouche.
« Ce sera vite fait, » dit-il en hésitant, « si je puis téléphoner. »
M. Othon dit qu'il allait le conduire. Mais le docteur se retourna vers la femme.
« Je suis désolé. Vous devriez préparer quelques affaires. Vous savez ce que c'est. »
Madame Othon parut interdite. Elle regardait à terre.
« Oui, »
dit-elle en hochant la tête.
« C'est ce que je vais faire. »
Avant de les quitter, Rieux ne put s'empêcher de leur demander s'ils n'avaient besoin de rien. La femme le regardait toujours en silence. Mais le juge détourna cette fois les yeux.
« Non, »
dit-il. Puis il avala sa salive.
« Mais sauvez mon enfant. »
La quarantaine, qui au début n'était qu'une simple formalité, avait été organisée par Rieux et Rambert de façon très stricte. En particulier, ils avaient exigé que les membres d'une même famille fussent toujours isolés les uns des autres. Si l'un des membres de la famille avait été infecté sans le savoir, il ne fallait pas multiplier les chances de la maladie. Rieux expliqua ses raisons au juge qui les trouva bonnes. Cependant, sa femme et lui se regardèrent de telle façon que le docteur sentit à quel point cette séparation les laissait désemparés. Madame Othon et sa petite-fille purent être logées dans l'hôtel de quarantaine dirigé par Rambert. Mais pour le juge d'instruction, il n'y avait plus de place, sinon dans le camp d'isolement que la préfecture était en train d'organiser sur le stade municipal à l'aide de tentes prêtées par le service de voirie. Rieux s'en excusa, mais M. Othon dit qu'il n'y avait qu'une règle pour tous, et qu'il était juste d'obéir. Quant à l'enfant, il fut transporté à l'hôpital auxiliaire dans une ancienne salle de classe où 10 lits avaient été installés. Au bout d'une vingtaine d'heures, Rieux jugea son cas désespéré. Le petit corps se laissait dévorer par l'infection sans une réaction. De tout petits bubons, douloureux mais à peine formés, bloquaient les articulations de ses membres grêles. Il était vaincu d'avance. C'est pourquoi Rieux eut l'idée d'essayer sur lui le sérum de Castel. Le soir même, après le dîner, ils pratiquèrent la longue inoculation sans obtenir une seule réaction de l'enfant. À l'aube, le lendemain, tous se rendirent auprès du petit garçon pour juger de cette expérience décisive. L'enfant, sorti de sa torpeur, se tournait convulsivement dans les draps. Le docteur, Castel et Tarou, depuis 4 heures du matin, se tenaient près de lui, suivant pas à pas les progrès ou les haltes de la maladie. À la tête du lit, le corps massif de Tarou était un peu voûté. Au pied du lit, assis près de Rieux debout, Castel lisait avec toutes les apparences de la tranquillité un vieil ouvrage. Peu à peu, à À mesure que le jour s'élargissait dans l'ancienne salle d'école, les autres arrivaient. Panlo d'abord, qui se plaça de l'autre côté du lit par rapport à Tarou et adossé au mur. Une expression douloureuse se lisait sur son visage et la fatigue de tous ces jours où il avait payé de sa personne avait tracé des rides sur son front congestionné. À son tour, Joseph Grand arriva. Il était 7 heures et l'employé s'excusa d'être essoufflé. Il n'allait rester qu'un moment. Peut-être savait-on déjà quelque chose de précis. Sans mot dire, Rieu lui montra l'enfant qui, les yeux fermés dans une face décomposée, les dents serrées à la limite de ses forces, le corps immobile, tournait et retournait sa tête de droite à gauche sur le traversin sans drap. Lorsqu'il fit assez jour, enfin, pour qu'au fond de la salle, sur le tableau noir demeuré en place, on pût distinguer les traces d'anciennes formules d'équations, Rambert arriva. Il s'adossa au pied du lit voisin et sortit un paquet de cigarettes. Mais après un regard à l'enfant, il remit le paquet dans sa poche. Castel, toujours assis, regardait Rieu par-dessus ses lunettes.
« Avez-vous des nouvelles du père ?»«
Non, » dit Rieu. « Il est au camp d'isolement. » Le docteur serrait avec force la barre du lit où gémissait l'enfant. Il ne quittait pas des yeux le petit malade qui se raidit brusquement et les dents de nouveau serrées se creusa un peu au niveau de la taille, écartant lentement les bras et les jambes. Du petit corps, nu sous la couverture militaire, montait une odeur de laine et d'aigre sueur. L'enfant se détendit peu à peu, ramena bras et jambes vers le centre du lit, et toujours aveugle et muet, parut respirer plus vite. Rieu rencontra le regard de Tarou qui détourna les yeux. Ils avaient déjà vu mourir des enfants, puisque la terreur depuis des mois ne choisissait pas. Mais ils n'avaient jamais encore suivi leur souffrance minute après minute, comme ils le faisaient depuis le matin. Et bien entendu, la douleur infligée à ces innocents n'avait jamais cessé de leur paraître ce qu'elle était en vérité, c'est-à-dire un scandale. Mais jusque-là, du moins, ils se scandalisaient abstraitement, en quelque sorte, parce qu'ils n'avaient jamais regardé en face si longuement l'agonie d'un innocent. Justement, l'enfant, comme mordu à l'estomac, se pliait à nouveau avec un gémissement grêle. Il resta creusé ainsi pendant de longues secondes, secoué de frissons et de tremblements convulsifs, comme si sa frêle carcasse pliait sous le vent furieux de la peste et craquait sous les souffles répétés de la fièvre. La bourrasque passée, il se détendit un peu. La fièvre sembla se retirer et l'abandonner haletant sur une grève humide et empoisonnée, où le repos ressemblait déjà à la mort. Quand le flot brûlant l'atteignit à nouveau pour la troisième fois et le souleva un peu, l'enfant se recroquevilla, recula au fond du lit dans l'épouvante de la flamme qui le brûlait et agita follement la tête en rejetant sa couverture. De grosses larmes jaillissant sous les paupières enflammées se mirent à couler sur son visage plombé. Et au bout de la crise, épuisé, crispant ses jambes osseuses et ses bras dont la chair avait fondu en 48 heures, l'enfant prit dans le lit dévasté une pose de crucifié grotesque. Tarou se pencha et de sa lourde main essuya le petit visage trempé de larmes et de sueur. Depuis un moment, Castel avait fermé son livre et regardé le malade. Il commença une phrase, mais fut obligé de tousser pour pouvoir la terminer, parce que sa voix détonnait brusquement.
« Il n'y a pas eu de rémission matinale, n'est-ce pas, Rieu ?»
Rieu dit que non, mais que l'enfant résistait depuis plus longtemps qu'il n'était normal. Panlo, qui semblait un peu affaissé contre le mur, dit alors sourdement « S'il doit mourir, il aura souffert plus longtemps. » Rieu se retourna brusquement vers lui et ouvrit la bouche pour parler. Mais il se tut, fit un effort visible pour se dominer et ramena son regard sur l'enfant. La lumière s'enflait dans la salle. Sur les 5 autres lits, des formes remuaient et gémissaient, mais avec une discrétion qui semblait concertée. Le seul qui cria, à l'autre bout de la salle, poussait à intervalles réguliers de petites exclamations qui paraissaient traduire plus d'étonnement que de douleur. Il semblait que même pour les malades, ce ne fut pas l'effroi du début. Il y avait maintenant une sorte de consentement dans leur manière de prendre la maladie. Seul l'enfant se débattait de toutes ses forces. Rieu, qui de temps en temps lui prenait le pouls, sans nécessité d'ailleurs et plutôt pour sortir de l'immobilité impuissante où il était, sentait en fermant les yeux cette agitation se mêler au tumulte de son propre sang. Il se confondait alors avec l'enfant supplicié et tentait de le soutenir de toute sa force encore intacte. Mais une minute réunie, les pulsations de leurs deux cœurs se désaccordaient, l'enfant lui échappait, et son effort sombrait dans le vide. Il lâchait alors le mince poignet et retournait à sa place. Le long des murs peints à la chaux, la lumière passait du rose au jaune. Derrière la vitre, une matinée de chaleur commençait à crépiter. C'est à peine si on entendit Grand partir en disant qu'il reviendrait. Tous attendaient. L'enfant, les yeux toujours fermés, semblait se calmer un peu. Les mains devenues comme des griffes labouraient doucement les flancs du lit. Elles remontèrent, grattèrent la couverture près des genoux, et soudain l'enfant plia ses jambes, ramena ses cuisses près du ventre et s'immobilisa. Il ouvrit alors les yeux pour la première fois et regarda Rieu qui se trouvait devant lui. Au creux de son visage maintenant figé dans une argile grise, la bouche s'ouvrit, et presque aussitôt il en sortit un seul cri continu, que la respiration nuançait à peine, et qui emplit soudain la salle d'une protestation monotone, discorde, et si peu humaine qu'elle semblait venir de tous les hommes à la fois. Rieu serrait les dents et Tarou se détourna. Rambert s'approcha du lit près de Castel qui ferma le livre, resté ouvert sur ses genoux. Panelot regarda cette bouche enfantine, souillé par la maladie pleine de ce cri de tous les âges. Et il se laissa glisser à genoux, et tout le monde trouva naturel de l'entendre dire d'une voix un peu étouffée, mais distincte derrière la plainte anonyme qui n'arrêtait pas. « Mon Dieu, sauvez cet enfant !» Mais l'enfant continuait de crier, et tout autour de lui les malades s'agitèrent. Celui dont les exclamations n'avaient pas cessé à l'autre bout de la pièce précipita le rythme de sa plainte jusqu'à en faire lui aussi un vrai cri, pendant que les autres gémissaient de plus en plus fort. Une marée de sanglots déferla dans la salle couvrant la prière de Panelot, et Rieu, accroché à sa barre de lit, ferma les yeux, ivre de fatigue et de dégoût. Quand il les rouvrit, il trouva Tarou près de lui. « Il faut que je m'en aille, » dit Rieu. Je ne peux plus les supporter. » Mais brusquement, les autres malades se turent. Le docteur reconnut alors que le cri de l'enfant avait faibli, qu'il faiblissait encore et qu'il venait de s'arrêter. Autour de lui, les plaintes reprenaient, mais sourdement, et comme un écho lointain de cette lutte qui venait de s'achever. Car elle s'était achevée. Castel était passé de l'autre côté du lit et dit que c'était fini. La bouche ouverte mais muette, l'enfant reposait au creux des couvertures en désordre, rapetissé tout d'un coup, avec des restes de larmes sur son visage. Panelot s'approcha du lit et fit les gestes de la bénédiction. Puis il ramassa ses robes et sortit par l'allée centrale. « Faudra-t-il tout recommencer ?» demanda Tarou à Castel. Le vieux docteur secouait la tête. « Peut-être, » dit-il avec un sourire crispé. Après tout, il a longtemps résisté. Mais Rieu quittait déjà la salle, d'un pas si précipité et avec un tel air que, lorsqu'il dépassa Panelot, celui-ci tendit le bras pour le retenir. « Allons, docteur, » lui dit-il. Dans le même mouvement emporté, Rieu se retourna et lui jeta avec violence. « Ah, celui-là, au moins, était innocent. » Vous le savez bien. » Puis il se détourna, et franchissant les portes de la salle avant Panelot, il gagna le fond de la cour d'école. Il s'assit sur un banc entre les petits arbres poudreux et essuya la sueur qui lui coulait déjà dans les yeux. Il avait envie de crier encore pour dénouer enfin le nœud violent qui lui broyait le cœur. La chaleur tombait lentement entre les branches des ficus. Le ciel bleu du matin se couvrait rapidement d'une taie blanchâtre qui rendait l'air plus étouffant. Rieu se laissa aller sur son banc. Il regardait les branches, le ciel, retrouvant lentement sa respiration, ravalant peu à peu sa fatigue. Pourquoi m'avoir parlé avec cette colère ?
Dit une voix derrière lui.
Pour moi aussi, ce spectacle était insupportable.
Rieu se retourna vers Panlou.
C'est vrai, dit-il.
Pardonnez-moi, mais la fatigue est une folie. Et il y a des heures dans cette ville où je ne sens plus que ma révolte.
Je comprends,
murmura Panlou.
Cela est révoltant parce que cela passe notre mesure. Mais peut-être devons-nous aimer ce que nous ne pouvons pas comprendre.
Rieu se redressa d'un seul coup. Il regardait Panlou avec toute la force et la passion dont il était capable et secouait la tête.
Non, mon père,
dit-il.
Je me fais une autre idée de l'amour. Et je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés.
Sur le visage de Panlou, une ombre bouleversée passa.
Ah, docteur,
fit-il avec tristesse.
Je viens de comprendre ce qu'on appelle la grâce.
Mais Rieu s'était laissé aller de nouveau sur son banc. Du fond de sa fatigue revenue, il répondit avec plus de douceur.
C'est ce que je n'ai pas. Je le sais. Mais je ne veux pas discuter cela avec vous. Nous travaillons ensemble pour quelque chose qui nous réunit au-delà des blasphèmes et des prières. Cela seul est important.
Panlou s'assit près de Rieu. Il avait l'air ému.
Oui,
dit-il.
Oui. Vous aussi, vous travaillez pour le salut de l'homme.
Rieu essayait de sourire.
Le salut de l'homme est un trop grand mot pour moi. Je ne vais pas si loin. C'est sa santé qui m'intéresse. Sa santé d'abord.
Panlou hésita.
Docteur, dit-il.
Mais il s'arrêta. Sur son front aussi, la sueur commençait à ruisseler. Il murmura « Au revoir » et ses yeux brillaient quand il se leva. Il allait partir quand Rieu, qui réfléchissait, se leva aussi et fit un pas vers lui.
« Pardonnez-moi encore, » dit-il. « Cet éclat ne se renouvellera plus. »
Panlou tendit sa main et dit avec tristesse
« Et pourtant, je ne vous ai pas convaincu. Qu'est-ce que cela fait ?»
dit Rieu.
Ce que je hais, c'est la mort et le mal, vous le savez bien. Et que vous le vouliez ou non, nous sommes ensemble pour les souffrir et les combattre.
Rieu retenait la main de Panlou.
Vous voyez,
dit-il en évitant de le regarder.
Dieu lui-même ne peut maintenant nous séparer.